Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, notre émission est consacrée à la montée des radicalités, et en particulier à la percée des extrêmes droites dans plusieurs pays, en Europe mais aussi au Proche-Orient. Et pour cette première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Inès Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste indépendante, vous êtes basée à Beyrouth et vous étiez il y a quelques jours en Israël pour couvrir les élections législatives. Et la première leçon que vous avez tirée, et c'est pour ça qu'on a souhaité vous inviter pour vous interroger par rapport au thème de l'émission, vous avez analysé que si Benjamin Netanyahou était de retour, le grand gagnant de ces élections législatives, c'était l'extrême droite religieuse, et c'est ce que vous avez écrit dans un article que vous avez publié sur le site des Échos. Et donc, c'est la première leçon que vous tirez de ces élections législatives en Israël, c'est une percée inédite et une victoire de l'extrême droite qui va de fait permettre le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou.
Oui, exactement. Alors, Benjamin Netanyahou, il se place avec son parti, le Likoud, donc la droite traditionnelle, il se place comme le premier parti au Parlement israélien. Ensuite, on a Yair Lapid, le centre, et puis l'extrême droite, représentée par le parti sioniste religieux, qui devient le troisième parti, la troisième force politique de la Knesset, hein, le Parlement israélien. Donc c'est absolument inédit et ça dit beaucoup de choses à la fois de la situation en Israël, des récentes évolutions, mais aussi du système israélien. Je vais développer un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué étant donné que le système israélien est très très différent du système qu'on a en France. Alors ce qui marque d'abord, c'est symboliquement ce parti sioniste religieux, il fait trois fois plus de voix, de députés que le parti travailliste qui avait créé Israël. Donc c'est symbolique hein, ce score, mais on se rend compte que Israël du coup change vraiment de visage.
Le parti travailliste n'a plus que 4 députés, c'est historiquement voilà. Son score le plus bas depuis la création de l'État d'Israël, je crois.
Voilà. C'est pourtant un des partis traditionnels hein, qui rythmait la vie politique israélienne avec le Likoud qui est à droite. Et là, il y a un effondrement hein, total qui ne date pas de ces élections-là, hein, mais de plusieurs années. Et symboliquement, se dire que l'extrême droite suprématiste juive fait trois fois plus que le parti travailliste, c'est quand même assez fort. Alors, effectivement, c'est la grande gagnante parce que le Likoud, finalement, il se maintient à son score... Les dernières années, on en est à la cinquième élection en 3 ans et demi. Donc, il y a eu beaucoup d'élections hein, les dernières années. C'est dû à l'instabilité du système politique israélien. Donc, le Likoud se maintient à un score à peu près stable, mais l'extrême droite, elle fait un bond gigantesque dans les votes. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Et le premier facteur, en fait, eh bien, c'est Benjamin Netanyahou lui-même, puisque aux dernières élections, il a permis à deux hommes qui incarnent deux tendances d'extrême droite de se réunir derrière une même formation pour collecter un maximum de voix et augmenter ses chances de revenir à la tête d'un gouvernement israélien. Je rappelle juste rapidement qu'en Israël, donc c'est un système parlementaire, on élit des députés, et les députés en fait se forment des alliances en fait selon les partis. Donc on a des partis qui sont qui forment des alliances, hein, on a des espèces de blocs. Et ça fait quelques années qu'on a un espèce de gros bloc Netanyahou, autour de Netanyahou, donc qui réunit la droite, les partis religieux et l'extrême droite en l'occurrence, et un bloc qui se place plutôt comme un bloc anti-Netanyahou autour de Yair Lapid, hein, qui était le premier ministre par intérim, avec aussi la gauche, donc le centre, et puis un parti arabe. Et donc pour être Premier ministre, eh bien, il faut réunir le plus de députés, le plus de sièges pour prétendre pouvoir diriger un gouvernement. Et aux dernières élections, Benjamin Netanyahou, il a permis à ces deux personnes de se réunir. Donc on a d'un côté Itamar Ben-Gvir, qui est un héritier du kahanisme, hein, qui est ouvertement raciste, qui utilise la provocation extrême, hein, il se rend dans les territoires palestiniens, il brandit des armes à feu, hein, à Jérusalem-Est, par provocation. Il a longtemps appelé à l'expulsion de tous les Arabes. Maintenant, il essaie de donner une façade un petit peu plus soft, mais qui est toujours extrêmement raciste, en disant que eh bien, les Arabes déloyaux, il faudrait les expulser. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, une personne arabe déloyale, mais voilà, ça reste toujours très flou. Il appelle aussi toujours à l'annexion de la Cisjordanie, mais sans donner la citoyenneté aux Palestiniens. Donc voilà, vous voyez un petit peu le projet pour lequel le projet qu'il prépare pour le pays, qui a des bases extrêmement racistes. Et puis d'un autre côté, on a Bezalel Smotrich, qui est installé depuis longtemps en politique, hein, et qui est un représentant des colons israéliens, mais de la ligne très dure des colons israéliens, donc il se place sur un autre aspect. Et ces deux personnes donc, ont fait alliance, et c'est Benjamin Netanyahou hein, qui a permis de les crédibiliser, parce qu'à la base, Ben-Gvir, il était complètement banni de la vie politique israélienne. Hein. Il n'était pas du tout acceptable qu'une personne de cet ordre devienne députée. Mais Benjamin Netanyahou l'a rendu acceptable. Et d'un autre côté, donc j'avais mené un entretien avec Sami Cohen. Hein, je vous invite à lire ses ouvrages sur la question. depuis l'année dernière, surtout depuis le printemps 2021, une situation sécuritaire très très tendue en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc en mai 2021, il y a eu la question de Sheikh Jarrah qui a été mise au premier plan avec des violences qui ont éclaté entre la police israélienne et les Palestiniens. Et ça a débouché sur une petite guerre assez courte hein, à Gaza. Et puis des émeutes. Donc ça, c'est très important à retenir. On en a peut-être un petit peu moins parlé en France.
Les émeutes dans les villes arabes israéliennes.
Voilà, c'est ça. Donc qui ont été un vrai choc des deux côtés hein, pour les Palestiniens de 48 ou arabes israéliens. Ça dépend comment on va appeler cette population. Et puis les juifs israéliens. Et qui a laissé des marques dans les esprits, des marques très très durables. Donc il y a cette question, et au printemps dernier également, il y a eu une multiplication d'attentats donc à Beersheba, à Tel Aviv, qui ont aussi marqué les esprits et qui rappellent, faut pas l'oublier, le souvenir de la seconde intifada dans les esprits en Israël. Et les dernières semaines, j'insiste là-dessus parce que ça a vraiment crispé la société les derniers temps. Il y a eu aussi des attaques assez nombreuses en Cisjordanie et de la même manière, des attaques à la fois de colons contre les Palestiniens et de Palestiniens contre l'armée israélienne et certains colons. Des insurrections des groupes palestiniens, surtout à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, et à Naplouse, qui ont donc mené ce qui ressemblait à une intifada naissante. Enfin, c'est un peu difficile de décrire la situation, mais on est une bataille contre les forces armées israéliennes. Et ça a énormément crispé la société israélienne. Et pour certains qui pensaient voter à droite, voilà, qui pensaient avoir un vote plus classique, ils ont pu se tourner vers l'extrême droite très radicale pour
exprimer leurs angoisses, voilà. Leur colère.
Voilà.
Mais le paradoxe, c'est que à chaque élection ou réélection de Benjamin Netanyahou, il va chercher, c'est l'impression que ça donne, toujours plus à droite. On avait l'impression que ses alliés d'avant, les Naftali Bennett, et puis avant, à un moment donné, c'était appuyer aussi sur d'autres partis qui d'ailleurs apparaissent et disparaissent en fonction des élections, parce que c'est vrai que le système à la proportionnelle très, très, très forte, comme en Israël, amène à chaque fois des partis qui se créent souvent d'ailleurs autour de ces d'anciens du Likoud qui quittaient Netanyahou. Et après, effectivement, Netanyahou, lui, semble insubmersible. Ses anciens alliés disparaissent, il en trouve de nouveaux. Et là, vous nous dites, c'est que finalement, il a réintégré dans le jeu politique des gens qui n'y étaient pas parce qu'ils étaient trop radicaux, qu'ils avaient des idées trop racistes, qui mettaient vraiment, qui portaient atteinte à la cohésion du pays. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur l'État d'Israël et le changement que vous avez décrit en disant, voilà, la gauche est effondrée. Aujourd'hui, le choix, il est entre un centre très à droite, une droite très dure, et maintenant une extrême droite qui émerge.
Ça dit d'abord qu'il y a une droitisation d'Israël qui date pas d'hier. Hein. Il faut aller chercher un petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passe. Déjà, l'échec d'Oslo. Donc les accords d'Oslo qui sont passés au début des années
90. C'est même plus un sujet d'ailleurs dans les élections israéliennes ces dernières années. On ne parle même plus du processus de paix.
Mais qui explique beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Israël, parce que l'échec d'Oslo et la seconde intifada, ça a lourdement marqué la société israélienne et ça a participé à la droitisation de la société. Hein. Les attentats dans les boîtes de nuit qui ont tué des centaines de personnes d'une vingtaine d'années, voilà. C'est un choc absolu et donc les personnes se sont tournées de manière très rapide vers la droite et même vers la droite radicale. Benjamin Netanyahu, en fait, il tente de survivre pas seulement sur le plan politique, mais il tente d'échapper à la prison, hein, parce qu'il est poursuivi, il est inquiété dans des affaires de corruption qui sont, il le sait, qui sont très très importantes et qui pourraient mettre à mal sa liberté, hein. Il risque la prison, hein, clairement, dans ses affaires. Donc, il tente le tout pour le tout, et il sait très bien qu'il joue avec le feu. Il a du mal, d'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne électorale, hein. Il a du mal à trouver un équilibre aussi. Il évitait de s'afficher avec Ben Gvir, par exemple, parce qu'il sait que c'est pas une personne fréquentable, pour une partie de son électorat à lui. Et d'un autre côté, il en a besoin. Donc, il favorise une personne qui sait dangereuse, même pour lui-même, hein, parce que Ben Gvir, il a siphonné aussi des voix du Likoud. Mais en même temps, il ne peut pas s'en passer. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour lui pour former une coalition gouvernementale et faire passer.
Et vous pensez que cette coalition, un peu mal assortie quand même, par rapport à ce que vous nous décrivez, peut durer? Parce que là, il y a eu aussi une multiplication de scrutins, parce que justement, les coalitions au pouvoir étaient soit très fragiles, soit trop fragiles.
Oui, c'est le problème depuis 4-5 ans en Israël. On remarque vraiment la fragilité du système, l'instabilité du système. Alors, de là à dire que c'est une coalition... si on regarde ce qui se passe en face, hein, Yair Lapid, Bennett, donc il y a eu pendant un an et demi, ce gouvernement... donc c'est une coopération entre Yair Lapid du centre, qui était jusqu'à maintenant le premier ministre par intérim, et puis Naftali Bennett, donc droite radicale, hein, il est à droite du Likoud, qui sont partagés le poste de premier ministre. Donc ils ont mené une coopération là-dessus, et ils réunissaient la droite radicale, le centre, la gauche, la gauche radicale sioniste et un parti arabe. Donc on peut dire qu'au niveau instabilité, voilà, le bloc était quand même particulièrement hétéroclite. Face à eux, le bloc de Netanyahou, il semble quand même un petit peu plus cohérent, un petit peu plus logique, sur le plan idéologique en tout cas, parce qu'il réunit la droite traditionnelle, le Likoud, les partis religieux, hein, le judaïsme, la Torah unifiée qui représente les Ashkénazes ultra-orthodoxes, et Chass qui représente les Mizrahim, les Sépharades ultra-orthodoxes. Et puis ce parti d'extrême droite, parti sur une religion, on a quand même l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de cohérence idéologique. Mais effectivement, vous avez raison, on peut imaginer que ce gouvernement ne fonctionne pas. Ce sera dû à beaucoup de facteurs différents, notamment évidemment les relations entre Ben Gvir et Netanyahou. il est certain que Ben-Gvir il va essayer d'influencer la politique par les idées hein, d'extrême droite qu'il défend, parce que c'est un pari pour lui. S'il rentre au gouvernement comme ministre, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Hein. Donc il va falloir qu'il montre qu'il peut influencer la politique israélienne avec ses idées extrêmement racistes et radicales. Mais d'un autre côté, il a face à lui Benjamin Netanyahou, qui est beaucoup plus expérimenté dans la vie politique israélienne et qui s'est beaucoup plus joué avec dans le jeu politique. Hein, il est plus doué, hein, c'est un loup politique, Benjamin Netanyahou. Donc ça dépendra de la capacité de l'un et l'autre à influencer la politique. Et on peut pas prévoir que ce gouvernement tiendra des années, hein, parce que vu ce qui se passe depuis ces récentes années en Israël, effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a quand même face à nous un bloc qui a un peu plus de cohérence au niveau idéologique, on va dire.
Alors dernière question, est-ce que justement ce retour en force de Benjamin Netanyahou, appuyé sur une extrême droite religieuse, elle n'est pas aussi facilitée par la faiblesse et les divisions de ceux qui avaient réussi, avec parfois des divergences idéologiques considérables, à chasser Netanyahou du pouvoir? Et est-ce qu'il y a l'espoir que se reconstitue un camp plus modéré?
Alors, effectivement, on ne peut pas voir la victoire de Netanyahou et de l'extrême droite sans voir ce qui se passe en face. On a quand même un bloc qui se maintient. Yair Lapid reste avec son parti Yesh Atid. Il reste la deuxième force politique du Parlement israélien. Donc on peut pas nier qu'il y a quand même quelque chose en face qui perdure. Hein. Et jusqu'au moment des élections, on savait absolument pas quels seraient les résultats. Les sondages prévoyaient vraiment un résultat très très serré entre d'un côté les anti-Netanyahou représentés par Yair Lapid et d'un côté le bloc de Netanyahou. Donc on peut pas dire que c'est une victoire non plus unanime et éclatante de la droite et de l'extrême droite, même si c'est une percée vraiment historique. Il y a quand même quelque chose qui continue d'exister au centre et à gauche de l'échiquier politique israélien et parmi les partis arabes. Ce qui s'est passé pendant ces élections, le problème de Yair Lapid, c'est qu'il comptait sur des petits partis, des partis qui risquaient de ne pas passer le seuil électoral
des 3,5%
au Parlement israélien. Donc c'était vraiment son gros problème et c'est un gros point d'interrogation qu'on voyait dans les sondages. Hein. On avait du mal à prévoir ce qui se passerait. Donc son problème s'est confirmé. Le Meretz, qui est un parti de gauche radicale sioniste, n'est pas passé. Donc ça a privé au moins de quatre députés Yair Lapid. Il y a un autre aspect qui est très très important que j'avais aussi traité pendant la campagne électorale, c'est la question des partis arabes. Je fais juste un petit aparté historique. En 2015, il y a quatre partis arabes. Il y a Ta'al, Hadash, Balad et Ra'am. En 2015, ils s'étaient associés pour la première fois lors des élections législatives sous une formation politique qu'ils avaient appelée la liste unifiée et ils avaient réalisé un score historique en devenant la troisième force politique du Parlement israélien. Donc c'était vraiment un gros exploit. Et c'est à partir de ce moment qu'on a remarqué que bien, ça fait sens, hein, à partir du moment où les partis arabes s'unifient derrière une même formation, l'électorat arabe, hein, ou les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de 48, sont beaucoup plus motivés, poussés à se déplacer au bureau de vote, donc à aller voter. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, pour la première fois, un parti arabe, donc c'est le parti islamiste Ra'am, a fait alliance avec d'autres partis donc sionistes, avec Yair Lapid, Naftali Bennett et la gauche, pour soutenir une coalition gouvernementale. C'est pas très bien passé au niveau du reste de l'électorat arabe-israélien, parce que surtout l'alliance avec Naftali Bennett. Naftali Bennett, c'est quand même la droite.
Oui, c'est la droite, c'est issu des colonies et très à droite.
Des colonies, quoi. Il soutient l'annexion de la zone C, il a quand même des choses très racistes. Hein, donc c'est, C'est quand même pas rien, mais c'est pas passé auprès de vos partis. Et là, pour cette élection, les partis se présentaient en ordre divisé. Il y avait que Hadash, donc les communistes, et Ta'al qui étaient ensemble, qui ont réussi à passer le seuil électoral. Les islamistes de Ram, ils ont aussi réussi à passer le seuil électoral. Mais l'électorat arabe a quand même eu une abstention assez forte par rapport à d'autres années. Et ça a
affaibli finalement le front anti-Netanyahou.
Voilà, ça a mis à mal le front anti-Netanyahou et ça a permis par effet de favoriser la droite et l'extrême droite. Ça, c'est un aspect très important. Et moi, il y a un autre aspect que je relève parce que je me suis rendue dans un meeting de Ben-Gvir. J'ai passé aussi des moments donc à Tel Aviv et Jaffa qui sont pourtant c'est un endroit qui n'est pas du tout acquis à l'extrême droite a priori. Et on remarquait quand même qu'il y a une présence très importante. Les militants de droite et d'extrême droite sont beaucoup plus visibles dans la rue, beaucoup plus actifs, beaucoup plus dans des quartiers...
Décomplexés, on pourrait dire.
Comment ?
Décomplexés, on pourrait dire.
Décomplexés, et puis ils essayent d'investir des...
Ah oui, de marquer leur territoire.
De marquer le territoire. Et là, moi, je me suis rendue à un meeting, c'était au nord de Tel Aviv. Et a priori, c'est un quartier qui n'est pas du tout... c'est plutôt gauche radicale, éventuellement le centre. Et voilà, c'est très décomplexé. Ils n'ont plus de problème à faire des meetings à Tel Aviv. Et ils sont très, très actifs. Et ils représentent une jeunesse assez désabusé, qui a peur du déclassement, qui a peur pour son identité juive, qui est issu de la petite classe moyenne ou des milieux plutôt modestes. Et donc Ben-Gvir, il arrive à capitaliser sur cette jeunesse israélienne. Il y avait surtout un public masculin qui montrait des muscles, qui voulait un petit peu en découdre, pas forcément religieux. Dans la salle, j'ai remarqué, il n'y avait pas une grande majorité de personnes qui portaient des kippas, d'hommes qui portaient des kippas. Et donc, il arrive à capitaliser là-dessus. Et en face, on a quand même une gauche qui continue d'exister, mais c'est une gauche un peu vieillissante. Quand on regarde les manifestations anti-Netanyahou, les manifestations du Mered, du Parti travailliste, c'est un public qui est beaucoup plus âgé. Donc, ça veut quand même dire beaucoup sur l'avenir de la gauche. Et puis sur ce que l'extrême droite arrive à faire, à mobiliser un public jeune, très actif, qui va dans les rues et qui mobilise aussi. On ne peut pas voir ce qui se passe en Israël sans voir ce qui se passe en Europe.
Merci beaucoup Inès. Je vous interromps parce que c'est la fin de la première partie de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous recevoir une autre fois. Et puis à tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons continuer à traiter le sujet de la montée des radicalités et des extrémismes en politique. On était donc sur le Proche-Orient et la couverture des élections législatives en Israël. Là, dans la deuxième partie de l'émission, on va reparler de ce qui se passe en Europe. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Camus. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques auprès de la Fondation Jean Jaurès, également chercheur associé à l'IRIS. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous suivez l'actualité des extrêmes droites, et notamment en Europe. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que finalement on n'est pas dans une phase politique où, après avoir été longtemps cantonné à la marge, les extrêmes, et en particulier les extrêmes droites, sont aux portes du pouvoir dans certains pays et carrément au pouvoir, et notamment, on l'a vu récemment, en Italie.
Alors, vous avez raison d'insister sur le fait que ces partis ont acquis une dimension de pouvoir et non plus seulement de protestation, mais ce qui m'étonne tout de même dans le constat que l'on fait aujourd'hui de cette progression, c'est qu'au fond, on oublie toujours de regarder en arrière. Commençons par l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie ? La victoire électorale d'une coalition composé de Fratelli d'Italia, le mouvement de Giorgia Meloni, de la Ligue du Nord et de Forza Italia, le parti toujours dirigé par l'inamovible Silvio Berlusconi. Cela peut apparaître comme quelque chose de parfaitement nouveau, sauf que cette coalition existait déjà en 1994. Le gouvernement Berlusconi I entre en fonction en 1994, appartiennent au gouvernement Forza Italia, bien sûr, la Ligue, qui s'appelait alors la Ligue du Nord, et qui était plus indépendantiste qu'elle l'est aujourd'hui, et puis l'Alliance nationale, qui n'est au fond que le parti auquel a succédé Fratelli d'Italia. Donc, d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil romain, d'une part, et d'autre part, les méthodes utilisées aujourd'hui par certains des ministres du gouvernement Meloni nouvellement entrés en fonction. Ces méthodes consistant par exemple à refuser l'accostage de bateaux de SOS Méditerranée transportant des migrants, tout cela, nous l'avons connu à partir de 1994, sous l'égide notamment de ministres de la Ligue, qui est un parti beaucoup plus dur que Fratelli d'Italia sur les questions migratoires. Ce sont toujours des ministres de la Ligue, dont Matteo Salvini, ces dernières années, qui, occupant le ministère de l'Intérieur, ont mis en œuvre les mesures les plus restrictives à l'encontre des migrants. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus dans la politique migratoire danoise. On a vu lors des élections législatives qui viennent de se tenir que les sociaux-démocrates avaient gagné. Eh bien, les sociaux-démocrates, je dis bien les sociaux-démocrates, depuis 1998, la gauche, oui. En tout cas, enfin la gauche, hormis la gauche radicale. Les sociaux-démocrates danois font depuis 1998 une politique qui leur a été dictée par le Parti du Peuple danois, qui est un parti populiste xénophobe, et qui en fait n'a jamais voulu participer au gouvernement, mais a toujours soutenu le gouvernement au Parlement en échange, dans une sorte de, pensez-moi l'anglicisme, de bargaining permanent, en échange de lois de plus en plus restrictives et pour certaines attentatoires aux libertés fondamentales, à l'encontre non seulement des migrants, mais des requérants d'asile. Comme par exemple la confiscation des effets personnels de valeur des personnes désirant entrer sur le territoire danois. Donc là aussi, peut-être qu'on s'est habitué, peut-être qu'une actualité chassant l'autre, on ne sait pas toujours revenir en arrière à bon escient, mais il n'y a finalement pas grand-chose de nouveau. Dans tout cela, depuis le début des années 80, on a un mouvement historique qui voit ces partis qu'on considérait comme défunts entre 1945 et les années 80, qu'on considérait comme des survivances. Oui, non seulement dépassés, mais frappés d'une sorte d'opprobre par la découverte des atrocités fascistes et nazies. On considérait que finalement tout ça ne reviendrait jamais, mais ça fait longtemps que c'est revenu.
Alors, quand même, en Italie, pour rester sur cet exemple, ce qui a frappé sans doute les observateurs et l'opinion, c'est que, vous l'avez rappelé, il y a eu des coalitions dans le passé, entre notamment la droite traditionnelle, incarnée par Silvio Berlusconi, mais qui était chef de la coalition. Là, c'est quand même la première fois qu'un parti dont la chef revendique, je dirais, un héritage, son héritage mussolinien, puisqu'elle reste quand même attachée à ses propos de jeunesse, mais elle devient et elle est devenue chef du gouvernement. Et Berlusconi, lui, n'est plus que, si je puis dire, un membre de la coalition parmi les autres. Donc c'est peut-être ça qui, psychologiquement, marque les esprits, c'est que désormais, l'extrême droite n'est plus simplement un allié temporaire, comme ça a pu l'être aussi en Autriche. On se rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand les conservateurs autrichiens avaient fait pactiser avec l'extrême droite, ça avait fait beaucoup de bruit en Europe. Puis après, ça s'est banalisé. Mais est-ce qu'on va assister aussi à la banalisation de la prise du pouvoir par des partis d'extrême droite en Europe?
Je pense que c'est déjà fait. Vous vous en souvenez sans doute, vous venez de parler de l'Autriche. Donc nous revenons un petit peu, flashback, nous sommes en 2000. Jörg Haider, qui souvent n'avait pas sa langue dans sa poche quand il s'agissait de parler du Troisième Reich, devient un partenaire de gouvernement des conservateurs. Il y a à l'époque un immense tollé de l'Union européenne, qui envisage des sanctions contre l'Autriche, et puis qui finit par accoucher d'une mesure ni chèvre ni chou, pas de sanctions, mais une commission de 3 sages, je cite, qui vont se rendre en Autriche pour évaluer ce que pourrait être la politique du gouvernement nouvellement nommé. Donc les 3 sages viennent à Vienne, où j'ai passé, moi, cette année-là, pas mal de temps. Il y avait tous les jours pratiquement des manifestations à Vienne, près du Parlement, rassemblant une foule assez nombreuse. Même les manifestants étaient un peu agacés, je dois le dire, par le fait que l'Union européenne vienne comme ça en tournée d'inspection, dans une sorte d'ingérence dans les affaires autrichiennes. Et puis, au bout d'un certain temps, les sages décident que circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que finalement, l'état de droit n'est pas menacé, on ne met personne en prison, la politique migratoire reste ce qu'elle était, c'est-à-dire accueil minimum, et l'affaire se termine totalement comme poisson.
Voilà. Et donc effectivement, toutes les protestations et les mouvements d'indignation...
Les protestations se sont étiolées. Les premières auxquelles j'ai assisté fin juillet étaient assez conséquentes. Les dernières auxquelles j'ai assisté fin août étaient parfaitement groupusculaires. Donc, mais par ailleurs, et c'est fondamentalement important, lorsqu'on a regardé l'année suivante, le nombre des entrées de migrants qui avait été autorisé par le gouvernement de coalition conservateur Jörg Haider, on a vu, chiffre en main, que les entrées n'avaient pas diminué. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte l'habileté suprême de ces partis, qui consiste la plupart du temps à savoir exactement ce qui va faire scandale et ce sur quoi on les attend, et à ne pas se jeter comme des imbéciles dans la gueule du loup, en prenant immédiatement des mesures dont ils savent qu'elles vont être immédiatement décriées. Donc ça rend le problème encore plus complexe, parce que finalement, pour la plupart, ces partis négocient assez bien leur tournant gouvernemental. Sur l'Italie, vous avez raison, ce qui a changé, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que là où Silvio Berlusconi était le maître, et les autres des forces d'appoint, aujourd'hui, c'est Giorgia Meloni qui a pris le dessus et Silvio Berlusconi n'est plus que porte à point. Giorgia Meloni a réussi notamment à devancer la Ligue de Matteo Salvini. Elle l'a fait pour des raisons que tous les observateurs attentifs de l'Italie connaissent et qui sont les suivantes. Matteo Salvini, au fond, est un histrion. C'est un histrion dangereux, mais c'est un histrion. C'est celui qui parle fort, c'est celui qui, j'allais dire, glapit le plus fort, avec
qui,
les propos
qui fait
les
de la provocation.
Il est dans la provocation permanente. Par ailleurs, c'est pas de la provocation. C'est-à-dire que ce qu'il dit sur les migrants, il le pense véritablement. Voilà. Mais personne ne pense sérieusement que cet homme pourrait un jour se voir confier le destin de l'Italie. Giorgia Meloni, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus sérieuse dans son approche idéologique. D'abord, elle a été formée par un parti qui, tout néo-fasciste qu'il était, formait véritablement ses militants, un corpus doctrinal. Ensuite, elle est sur le fil, c'est-à-dire qu'elle ne renie pas ses engagements de jeunesse, mais en même temps, elle dit « le fascisme est derrière nous, ça fait 30 ans que Gianfranco Fini l'a abjuré ». Et ensuite, sur la question des migrants, elle a effectivement inclus dans son programme électoral un certain nombre de mesures, comme la nécessité de déposer sa demande d'asile avant de rentrer sur le sol italien dans un hotspot situé en territoire non européen. Mais j'allais dire, elle n'en fait pas des tonnes. Elle va laisser le sale travail au ministre de la Ligue du Nord pour encore prendre davantage d'ascendant sur ce parti qui est par ailleurs, je parle de celui de Matteo Salvini, beaucoup plus mal implanté que le sien dans le sud de l'Italie. Donc c'est pour ça que le rapport de force a changé. Et puis Giorgia Meloni est très maligne, elle a aussi dit dans son programme, face à Bruxelles, pour moi ce sera toujours défendre les intérêts de l'Italie d'abord. Ok.
Oui, mais on ne parle plus de sortir de l'Union européenne ou de la zone euro ou ce type de fadaise qui était un petit peu le discours commun de tous ces partis tant qu'ils étaient à la marge. À partir du moment où ils s'approchent du pouvoir, on a l'impression comme vous le décrivez, qui mettent un peu d'eau dans leur vin, et en tout cas dans les discours, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, c'est plus du tout la même tonalité.
Ah ben c'est plus du tout la même tonalité, parce que Giorgia Meloni sait combien l'économie italienne a besoin de l'Europe. Donc c'est avant tout une réaliste, c'est une pragmatique. Matteo Salvini, là encore, est beaucoup plus ardent dans son souverainisme anti-européen, mais c'est une manière de montrer son irresponsabilité. Giorgia Meloni restera évidemment et dans la zone euro et dans l'Europe. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de remarquer que l'Alliance nationale, qui est donc le parti auquel elle avait adhéré après ces années néo-fascistes, l'Alliance nationale a eu des ministres dans le gouvernement Berlusconi 1 et 2, notamment Gianfranco Fini,
qui était aussi président du Parlement.
Président du Parlement, mais ministre des Affaires étrangères, et le ministre de la Défense était également un membre d'Alliance nationale. Il n'y a jamais eu politique italienne plus atlantiste, plus intégrée dans l'OTAN, plus pro-européenne qu'à cette époque-là.
Paradoxalement. Alors, peut-être pour faire la transition vers la situation française, est-ce que on est dans une phase de l'histoire politique où cette poussée de fièvre un petit peu des partis qui se revendiquent d'une forme de radicalité ou d'extrême droite, bien c'est un contexte qui fait l'effet émerger? Ou est-ce que vous pensez que, et notamment si la gauche se ressaisit, entre guillemets, ça peut être une parenthèse et qu'on va revenir à des choses plus pacifiées ou à des clivages moins brutaux?
Moi, je ne crois pas à, si j'ose dire, la thèse de la parenthèse. Pour une raison assez simple. Cela fait maintenant... depuis 1984 que le Rassemblement National, auparavant FN, monte dans les urnes. 1984, c'est la première fois que le FN recueille 10% des voix, c'est aux élections européennes, il envoie à l'époque 10 députés au Parlement européen, et puis ensuite, malgré tous les scandales, toutes les petites phrases de Jean-Marie Le Pen, tous les déluges de critiques dont il est l'objet, il monte. Mmh. Rappelez-vous, 1987, Jean-Marie Le Pen s'enferme dans cette controverse dite du point de détail dans laquelle il est proche de nier l'existence du génocide nazi. Et 2002, il est au second tour de l'élection présidentielle. Et toutes les études sociologiques ont montré avec quelle rapidité le Front National d'alors récupérait de tout ce qui lui arrivait. La profanation de Carpentras, qui lui a été imputée à tort, par ailleurs. Mmh. L'affaire du point de détail, l'affaire de l'inégalité des races, etc. Le FN récupère à chaque fois sa mise électorale et augmente sa mise électorale. Donc, ça, c'est la première raison qui me fait penser qu'il a encore des ressources. La seconde raison, c'est que quand on existe depuis 50 ans, c'est déjà plus une parenthèse. Mmh. Un parti politique, c'est un organisme vivant, ça naît, ça meurt. On a cru... que, effectivement, comme le poujadisme, le FN allait disparaître. Je rappelle, le poujadisme naît en 1953. En 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il est balayé. En 1962, il n'a plus de parlementaires. Donc, au fond, le poujadisme, c'est 1953-58, 5 ans. Le FN, Rassemblement National, c'est 50. Lorsqu'un parti s'installe dans la vie politique pendant 50 ans et fait bouger les choses sans être au pouvoir, parce que sans jamais avoir accédé au gouvernement, il a fait bouger les discours, il a fait bouger les pratiques, il a fait bouger les états d'esprit. Là, on n'est plus dans la parenthèse. Ce qu'on peut penser, par contre, c'est que ce parti reste dans la vie politique à un étage élevé et qu'il n'arrive jamais à conquérir le pouvoir. Et eux-mêmes, d'ailleurs, en sont conscients. J'avais encore une conversation il y a 48 heures avec un des responsables du VRN qui me disait ben, le problème, au fond, c'est que on a des sondages à 47-48% pour la présidentielle, mais 47-48, c'est pas 50% des voix plus une. Donc il y a cette possibilité-là
donc,
qu'on
vous
a
dites,
vu en Autriche, d'ailleurs.
Vous dites qu'il y a quand même encore, même s'ils s'en sont un peu affranchis aux élections législatives, une malédiction du scrutin majoritaire, en tout cas pour l'élection présidentielle. Un plafond de verre, quoi.
Vous savez, là, je disais donc, en Autriche, on a vu, non pas à cette élection présidentielle, mais à la précédente, le candidat du FPE, du parti d'extrême droite, faire 49 et quelques pourcents des voix.
Oui, mais face à un candidat écologiste.
Voilà, face à un candidat, on va dire, écologiste libéral, Alexander Van der Bellen, qui vient d'être réélu. Mais les 49 et quelques, ça n'a pas fait 50. Voilà.
Bah merci beaucoup Jean-Yves Camus pour ces explications. Ça augure d'autres débats et d'autres analyses parce qu'on voit bien que l'histoire se fabrique sous nos yeux. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques pour la Fondation Jean Jaurès, chercheur associé à l'IRIS et auteur de nombreux ouvrages sur l'extrême droite et aussi d'interventions médiatiques sur ce qui se passe en France et en Europe. Merci beaucoup Jean-Yves Camus, à très bientôt.
Merci à vous, merci, au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.